Notre séquence hebdomadaire à la une d'Acadème est un hommage que vous avez souhaité rendre aujourd'hui. Ruben Honigmann, bonjour.
Bonjour Elsa. Aujourd'hui, c'est Yom HaShoah, le jour où nous commémorons l'assassinat de millions de Juifs par les nazis. La Shoah, c'était aussi l'anéantissement de la vie intellectuelle, de la pensée, de la tradition de l'étude juive. En France, après la Shoah, il n'y avait que des ruines, un désert de vie juive et un certain nombre de personnalités hors du commun ont revitalisé la pensée juive sans laquelle il n'y a pas de judaïsme qui tienne. On cite toujours le trio Manitou, Lévinas, Neher, mais il y a aussi toute une cohorte de personnalités moins connues du grand public, en dehors des radars médiatiques, qui ont joué un rôle fondamental dans cette réinvention du judaïsme en France. Parmi eux, il y a un très grand maître qui vient de décéder à l'âge de 90 ans à Strasbourg, le Rav Eliaou Abitbol, le fondateur de la Yeshiva des étudiants. En général, dans cette chronique, à la une d'Acadème, nous mettons en avant des extraits d'émissions récentes ou d'archives à forte valeur patrimoniale, mais de Rav Eliaou Abitbol, il n'y a strictement rien à diffuser, et pour cause. Rav Eliaou, c'est ainsi qu'on l'appelait, était radicalement opposé à ce que l'on capte sa voix, qu'on l'enferme dans une boîte. Ce refus était même consubstantiel à son enseignement. Il ne le concevait que, son enseignement, comme matière vivante, comme mouvement perpétuel. Il se trouve que je suis allé voir Rav Eliaou il y a 10 ans et je lui ai proposé d'enregistrer son portrait de vie, sa trajectoire intellectuelle, comme nous l'avons fait sur Acadème pour d'autres monstres sacrés du judaïsme français, Benno Gross, Henri Atlan, Armand Abécassis, Avraham Weingart, etc. Je savais que Rav Eliaou refuserait, mais je ne voulais pas ne pas avoir essayé. Il m'a très gentiment reçu et m'a accordé 3 entretiens pour m'expliquer pourquoi il ne voulait pas réaliser cet entretien. Il m'a d'abord dit que faire cela reviendrait à lui dresser une pierre tombale. À cet égard, maintenant que Rav Eliaou n'est plus, on pourrait donc s'autoriser à parler de lui. Mais il y avait autre chose. Rav Eliaou m'a dit, et je ne fais là que restituer dans mes mots, c'est ainsi que je l'ai entendu, ce qui ne veut pas dire que c'est ce qu'il a dit, Rav Eliaou m'a dit qu'il ne voulait pas qu'on puisse un jour dire « Rav Eliaou a dit ça, Rav Eliaou pensait ça ». Il avait en horreur l'idée qu'on puisse le réduire à un propos ou à une idée, il ne voulait tout simplement pas qu'on parle de lui. Par conséquent, tout ce que je vais dire maintenant ne pourrait être qu'une trahison envers lui. Mais je le fais à destination des auditeurs qui vont entendre parler de lui ces prochains jours et qui ont peut-être envie qu'on leur situe ce maître dans la généalogie du judaïsme français. Rav Eliaou était à la fois un Marocain yiddishophone, un séfarade litvak et un anarchiste ultra-orthodoxe, pour employer des formules qu'il aurait certainement toutes récusées avec force. Il était toutes ces contradictions à la fois et son sens de la contradiction féconde, pas juste la contradiction formelle, la contradiction radicale, existentielle, cette contradiction était précisément, je crois, ce qui irradiait tout son enseignement. Rav Eliaou est né en 1936 au Maroc, puis par le biais des éclaireurs israélites qu'il a portés dans son cœur toute sa vie, il a fréquenté la Yeshiva d'Aix-les-Bains, puis l'école d'Orsay au début des années 50, où il a fait la rencontre décisive de Léon Ashkenazi Manitou, qu'il a plus tard envoyé étudier en Israël à la Yeshiva Be'er Yaakov du Rav Wolbe. Alors pour ceux à qui ce nom ne dit rien, Rav Wolbe, à l'échelle du monde de l'étude de la Torah, c'est l'équivalent de Mick Jagger pour le rock. Et il y avait d'ailleurs quelque chose de Mick Jagger chez Rav Eliaou, par son explosivité, son intensité, sa théâtralité et aussi sa transgressivité. Pour Rav Eliaou, un texte n'avait d'intérêt que s'il faisait scandale, s'il posait une bombe dans la somnolence de nos vies et s'il pouvait saisir n'importe qui dans sa part de vrai d'authenticité. Et c'est par la rencontre de sa personnalité exceptionnelle et d'une époque exceptionnelle, celle du frisson et du bouillonnement intellectuel de mai 68, qu'il a pu réanimer toute cette génération qu'Alain Finkielkraut a si bien qualifié de « juifs imaginaires » dans son tout premier livre, à savoir tous ces juifs nés après la Shoah qui s'insurgeaient contre une identité juive purement négative, pétrifiée dans la mémoire des victimes de la Shoah, et qui ne pouvait pas non plus se contenter du discours rabbinique policé, ni même de l'élan sioniste propre à cette époque. Cette génération était affamée de quête de sens. Rav Eliaou a nourri, sans jamais vouloir la rassasier, cette quête. Pour mener cette révolution talmudique, Rav Eliaou recrutait ses élèves directement sur les barricades, dans les cercles trotskistes et maoïstes, Le plus célèbre d'entre eux est Benny Levy, qui a passé plusieurs années à la Yeshiva des étudiants. Mais des centaines et des centaines d'autres y sont passés et ont vu leur vie transformée par sa fréquentation. Parmi lesquels, certains ont exporté le modèle Yeshiva des étudiants. Gérard Zizek à Paris, Guy Spingarn à Lyon, Joël Benhamou à Marseille, et puis les fils de Rav Abitbol aussi, qui enseignent, l'un à Bruxelles, l'autre à Grenoble, un troisième à Montréal. Rav Eliaou n'a délibérément pas laissé de traces. Il n'aurait pas aimé, je le répète, qu'on parle de lui. Je crois que la seule manière de perpétuer son enseignement et son souffle, c'est d'aller fréquenter ses élèves, ainsi que les élèves de ses élèves. Là, nous sommes encore dans le temps du deuil intime de sa famille. Nous attendrons à Akadem les Shloshim, le mois suivant le décès, pour diffuser un entretien plus approfondi avec l'un de ses plus proches élèves. En attendant, je vous propose d'écouter un extrait dans lequel un autre de ses élèves, Gérard Zizek, racontait ce qu'avait représenté pour lui sa rencontre avec Rav Eliaou Abitbol.
J'explique souvent à mes enfants qu'est-ce qui m'a touché à cette époque. Et lorsque je suis arrivé au centre talmudique de Rav Abitbol en 1974, j'ai senti que le monde commençait, que c'était possible. C'était possible. Aujourd'hui, les gens sont engoncés, leurs soucis. Est-ce qu'ils vont avoir les retraites? Est-ce que les impôts, maintenant, ils vont être prélevés à la base? Mais c'est un monde vieux. C'est un monde, on est engoncés dans des soucis. Mais commençons à vivre.
Qu'est-ce que vous avez trouvé à la yeshiva qui vous faisait commencer à vivre?
Voilà, c'est...
C'était la liberté qu'il y avait dans le texte.
Dans le texte, mais même cette liberté d'être, cet enthousiasme d'être,